Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Merci d'avoir bravé la pluie pour venir avec nous pour ces derniers jours de l'exposition d'Antoine Renard. Les finissages aux ateliers Vortex, c'est l'occasion de la conversation. La conversation, c'est l'occasion pour l'artiste exposé d'inviter une personnalité de son choix qui est extérieure au monde de l'art pour avoir des échanges autour de sa pratique, autour de thématiques qui les intéressent tous les deux, de centres d'intérêt commun. Et donc aujourd'hui, Antoine Renard a invité Franck Darwich, philosophe, spécialiste de l'art d'Heidegger, qui a travaillé sur l'ontologie, la mystique dans son œuvre, si je ne me trompe pas, et donc, qui est assez cohérent par rapport à la pratique d'Antoine et surtout cette exposition, qui a travaillé sur l'être, ce qu'il compose, ce qu'il répare et ce qu'il habille. Du coup, voilà, je vais vous laisser vous présenter et puis commencer la conversation. Et voilà, et je vous invite ensuite après à un petit peu, on vous invite un petit peu en vrai aux ateliers.
Merci Perrine. Bonjour à tous, merci d'être là. Moi, je suis donc Antoine Renard, c'est moi qui ai fait, parle plus fort, donc c'est moi qui ai fait ce que vous voyez ici, qui est une installation qui est aussi olfactive. Et normalement, il y a du son, mais on l'a enlevé parce que sinon, on ne s'entendrait pas. Voilà. Mais on la remettra, je pense, après la discussion, pour que vous puissiez avoir l'œuvre dans son ensemble. Donc moi, je suis artiste, et cette proposition, c'est comme un peu naïf peut-être, mais c'est un travail sur les cœurs brisés. Et je me suis inspiré d'une chanson, d'un rappeur californien qui est décédé en 2017 d'une overdose de Xanax. Et il a écrit une chanson qui m'a beaucoup touché, qui s'appelle Veins, et qui parle d'une manière détournée d'une rupture amoureuse, et qui compare à un shoot de Xanax ou d'héroïne. Et donc la chanson, elle évoque comme ça une sorte de mal-être ou de toxicité liée à, pour moi, ce qui est une sorte de question du deuil, de la perte ou de rupture liée à l'amour. Quoi. Voilà. Donc ce projet, en fait, j'ai essayé de mettre en forme en fait cette espèce d'univers émotionnel pop, et le son qui est diffusé, en fait, il vient directement de la bande son de la chanson, qui a été retravaillée. Distordu, rallongé, étiré, pour en faire une sorte de vibration ou de différentes propositions comme ça, vibratoires, qui sont en lien avec les travaux de recherche que je fais en Amazonie avec des guérisseurs de la forêt amazonienne. Et donc voilà, il y a un va-et-vient comme ça entre mes travaux de recherche en Amazonie, l'univers un peu de culture populaire. Et c'était cette espèce de va-et-vient entre blessure et réparation que je mets en place dans ce projet-là. Voilà. Peut-être que tu peux
parler.
Continuer.
Je fais quoi? Donc, c'est un peu plus difficile de me présenter parce que je suis un peu éclaté. Donc, c'est Franck Darwich. Je suis professeur de philosophie, un petit peu en exil en France. Parce que j'étais... avant, j'étais en France quand même. Même école, toi. Et je suis à l'origine spécialiste de Heidegger. J'enseignais au Liban. Donc, depuis 2021, je me suis rapatrié en France. Donc je travaille sur plusieurs choses. Je traduis beaucoup de l'allemand vers l'arabe, des œuvres philosophiques de l'allemand, de l'anglais, du français aussi. Donc je suis traducteur en philosophie. J'ai travaillé pour ce qui est d'aujourd'hui, peut-être ça peut aider à comprendre pourquoi je suis là. Deux choses, c'est que j'ai travaillé sur le divin et la mystique. J'ai travaillé beaucoup sur la notion du divin chez Heidegger. Et j'ai aussi, la deuxième raison, c'est que j'ai travaillé sur l'esthétique. Et en fait, je faisais partie de la société nordique d'esthétique. J'étais le seul mec non nordique dans la Société nordique d'esthétique. Donc on se réunissait, on avait des colloques tous les ans dans une ville dans le nord, à Uppsala en Suède, Aarhus au Danemark, etc., Bergen en Norvège. Et c'est parce que ce qui m'intéressait surtout, c'est ce retour à l'esthétique. Hein. C'est des gens, donc des universitaires surtout, qui travaillaient sur le retour à l'esthétique, non seulement dans le sens de Baumgarten, pas dans le sens seulement du beau, quoi, du beau comme tel, mais de la sensation. Hein. Retour dans l'art, au sens premier de l'esthésis aristotélicien, ça veut dire qu'il y a un retour vraiment à la sensation qui a été un petit peu évacué. Et donc, c'est un petit peu par là que je suis entré en art aussi. Et j'ai en particulier un article, je ne sais pas s'il sortira en français, mais qui sort en arabe, au Koweït, sur une lecture de Klee et de Cézanne à partir de deux tonalités fondamentales chez Heidegger. Je ne vais pas entrer dans ces détails. Et voilà, donc et j'ai reçu une invitation à voir déjà le travail d'Antoine et je suis très heureux d'être là. On a décidé ensemble par email que l'échange sera un peu plus impromptu, un peu plus on va voir.
Ouais, on se découvre.
Mais on est très content, on se découvre.
Enfin, moi, j'ai, comme je disais, donc j'ai travaillé sur cette problématique du cœur de manière détournée en prenant mille un peu chemin. Mais une des manières dont j'ai fonctionné, ça a été de reprendre cette idée du cœur à la fois comme un symbole, comme une émotion, comme un organe, et de jouer comme ça avec cette sorte de cet objet qui peut être pris comme tout un dans une sorte de différentes sémantiques et de voir comment est-ce qu'on peut passer aussi de l'un à l'autre, d'un champ matériel à un champ spirituel, à un champ émotionnel. Voilà, c'est pour ça que j'ai eu l'impression, en tout cas, que dans ton travail, il y avait peut-être aussi cette problématique comme ça aussi du passage entre la matière, le comme tu dis, le divin, le sacré. Voilà, je suis assez curieux de savoir comment, est-ce que ça résonne et de quelle manière ça peut résonner pour un quelqu'un qui est philosophe, qui a travaillé aussi dans une école d'art, donc avec des artistes.
Oui. Quand je pense à ça, quand j'ai vu ça, ça me fait... Je suis oriental. Ça me fait penser au but, si on regarde dans l'orthodoxie en particulier, en fait, de l'icône, qui est intéressante à deux niveaux. Le premier, que l'icône est là pour être dépassée, hein, dans la mystique orientale, hein, chez des gens comme on peut citer qui, Grégoire de Nazianze par exemple, mais d'autres, et Jean Damascène, etc. L'icône est là pour être dépassée, et donc c'est un être très physique, très présent devant soi, et qui est construit d'ailleurs de telle manière qu'il est censé nous mener à ce dépassement. Pourquoi ? Parce que l'icône commence par un fond noir, donc par une absence. Et à partir du noir, au lieu du blanc, bien sûr, on construit l'icône, on peint l'icône, mais ce qu'on peint est aussi là pour permettre non seulement de dépasser les profondeurs de l'âme, les profondeurs noires de l'âme, mais aussi de les dépasser sans s'arrêter à l'objet. C'est pour ça qu'on fait ça en or, qui est la lumière. Donc le dépassement du noir par la lumière fait que l'objet est là, vraiment très présent, et en même temps, cet objet est un dépassement de soi-même, de lui-même. Et je me demandais, en regardant, à quel point on peut aussi considérer ça, parce que si tu regardes tes cœurs, on a des trous, on a un cœur qui est là, mais qui est en même temps en train d'être une absence aussi, en train de se dépasser lui-même. Tu as construit sur quelque chose qui est comme ce noir-là, parce que tu l'as construit sur un vide. Et à partir de là, je ne sais pas si c'est ça mon idée, bien sûr, à partir de là, il y a la présence qui, petit à petit, elle mène vers un certain dépassement de soi-même. d'elle-même, quoi, comme œuvre. Mmh. Ouais, ouais, ça interpelle le côté mystique de ce côté, je pense, de l'icône.
Mmh. Ouais, c'est intéressant comme rebond, parce qu'effectivement, l'idée de placer les enceintes derrière les chœurs et d'avoir cette vision comme ça frontale d'une chose effectivement qui nous arrête aussi, qui est une grille avec ses symboles comme ça, mmh. qui est un peu comme ses motifs, et qui en même temps sont perméables et se font pénétrer et dépasser par la dimension sonore, mmh. qui selon moi en fait génère une sorte de profondeur ça crée une forme de tridimensionnalité et enfin en tout cas je pense qu'il parle aussi de cette question comme ça de la manière dont on traverse quelque part cette idée de traverser l'icône, quoi. Je pense que le son aussi génère je travaille pas avec l'or, enfin je sais pas, j'ai pas utilisé les mêmes codes que
ah oui non mais bien sûr classique, mais sinon ça serait unique,
ouais.
orthodoxe en plus.
Moi, tu sais que j'ai grandi entre Cergy-Pontoise et Lourdes.
Ah oui,
ok. En ce moment, j'ai quitté Lourdes, j'ai quitté Cergy-Pontoise, pardon, à 17 ans. Mm. Et mes parents sont installés dans le sud-ouest. Et maintenant, l'endroit où je retourne voir ma famille, c'est à Lourdes. Quoi.
Ok.
Il y a ce rapport. Lourdes, c'est un lieu de pèlerinage. Mm. C'est un lieu où la religion est très très présente. Quoi.
Oui.
Et qui m'inspire aussi beaucoup, quoi, dans les propositions que je peux faire, quoi.
Oui, moi j'aime aussi dans cette idée donc de du vrai retour à la sensation dans l'art, le fait que tu aies mis le son, donc on n'entend pas, on va l'entendre plus tard, puis les odeurs.
Ouais.
Et je peux peut-être demander d'où vient déjà les odeurs, quelles sortent, parce que ça me rappelle un petit peu de l'encens.
Ouais.
Un peu d'odeur dans le son.
Ouais, ouais. Il y a différentes molécules. En fait, j'ai travaillé en lien avec le programme ChatGPT.
Ouais.
Tu vois, j'ai demandé à la machine, cette intelligence artificielle, d'interpréter en fait chaque phrase de la chanson de Lil Peep, mmh. de l'artiste en question, comme si c'était une odeur. Et de me faire des propositions de quelle chaque parole de la chanson, qu'est-ce que ce serait si c'était une odeur. Et à partir de ça, j'ai sélectionné des molécules qui résonnaient avec la proposition de ChatGPT.
Comment tu fais pour sélectionner des molécules?
Bah après, c'est subjectif. Il y a un passage. Alors soit je travaille avec un parfumeur, ou soit je le fais moi-même. Mais moi, je fais une thèse depuis 3 ans sur les pratiques ritualisées du parfum, et donc j'explore ce domaine de l'olfaction depuis plusieurs années, et j'ai passé pas mal de temps à explorer la chimie en fait qui est derrière les odeurs. Donc je commence à avoir une connaissance de certaines molécules, je sais où chercher, quoi.
C'est intéressant parce qu'on n'arrive pas à deviner exactement ce que c'est.
Ouais.
Puis il y a un côté entre mort et vie dans ces odeurs. Il y a un côté qui me rappelle un petit peu des cryptes. Et je ne sais pas si tout le monde a... D'ailleurs, vous pouvez tous intervenir, apparemment, pendant qu'on parle.
Oui, n'hésitez pas si vous voulez sentir.
Est-ce que tout le monde a essayé de sentir ici, et puisque ça vous...
Elles émanent, oui.
Ouais.
Parce qu'en fait, elles émanent pas beaucoup, mais elles teintent beaucoup l'espace. Mmh. Je pense que c'est surtout quand on arrive dans l'espace, on est un peu pris, comme quand on rentre dans une église, quoi.
Mais quand tu t'approches, t'as vraiment...
Oui, il y a aussi des... Ouais, parce qu'en fait, chaque couche, il y a beaucoup de terpènes, il y a du géranium, il y a de l'encens, effectivement. Il y a aussi de l'ambre. Enfin, c'est une molécule, enfin, c'est une composition d'une boisson qui s'appelle ambrarome. C'est une...
Comme dans les savons, là, l'ambre. Qu'on a dans ma ville.
C'est une matière première qui est très cuirée, en fait. Quoi, qui a une sorte d'odeur un peu presque animale. Quoi,
J'aime bien. Ça n'a rien à voir avec quelque chose du cheval, le caca de cheval. Il y a un truc comme ça.
Ça peut être un peu de la civette. Ouais. Y a un côté, surtout, en fait, là, on est devant celle qui est assez chargée en... en nombre arôme.
Ouais.
Et là, il y a, là, y a aussi, y a aussi du tabac, parce que j'ai travaillé avec des molécules et des fois aussi avec des huiles essentielles, enfin des absolus. C'est subjectif. Hein. Quand je travaille avec les odeurs, j'essaie de passer le plus possible par un sorte de passage un peu, on va dire, mécanique. C'est pour ça que j'aime bien utiliser ChatGPT. Pour moi, c'est un outil qui est génial, parce que c'est vraiment un outil d'écriture qui permet de créer des sortes de passages comme ça entre une chanson qui parle de choses très très dures, d'histoire d'amour d'ado de 15 ans ou de 20 ans qui subit un truc très très puissant. Et grâce à une sorte de mystère de l'algorithme qui va chercher, on ne sait pas trop comment, des références sur Internet, arrive à donner des réponses à des trucs qui a priori...
Tu parles même dans ça, j'ai vu que tu parlais de profondeur en parlant de ça, et là, j'ai pas très bien compris. Ces réalisations, ces créations par ChatGPT, tu dis que ça permet d'avoir une certaine profondeur. C'est une distance que tu voulais dire.
En fait, ce que je trouve intéressant avec l'utilisation de ChatGPT, c'est qu'on passe d'un texte qui est le texte d'un auteur individuel qui raconte une histoire personnelle avec son vécu et ses mots, on fait une sorte de transfert avec un outil qui, lui, se nourrit d'une sorte de culture populaire numérique généralisée. Il va chercher tout ce qu'il y a sur les moteurs de recherche, tout ce qui est mis. Donc, c'est une sorte d'inconscient, enfin, ce que je pense, une sorte d'inconscient collectif
numérique. Oui, c'est ça qui m'a interpellé, c'est quand tu as dit ça.
Ouais. C'est la manière dont moi je le décris. Hein. Peut-être que je...
Et si tu prenais, par exemple, différentes personnes et tu leur dis de faire la même chose?
Ouais, mais ça pourrait bien marcher aussi.
Ça pourrait y comparer.
Ouais.
Je me demande ce que ça pourrait donner comme comparaison.
Ouais. C'est plus de travail, quoi.
Oui. on voit tout le monde le faire. T'en as plein.
En fait, ce qui est intéressant avec la machine, c'est que finalement, c'est quelque part, c'est presque ce qu'elle fait déjà.
Oui.
En fait, parce qu'elle a. Elle se nourrit de toutes les réactions, toutes les choses qu'il y a sur Internet pour prendre des décisions. Donc c'est un peu comme si j'utilisais une sorte de foule sans nom, en fait. Quoi. En tout cas, c'est quelque chose qui m'intéresse avec cet outil-là. Quoi. Ça permet effectivement de faire quelque chose d'assez analogue. Okay. Je pourrais aussi le faire moi-même. Je pourrais me dire, ces paroles-là me font penser à ça.
Et ça, et ça.
Ouais, mais on resterait presque dans une histoire personnelle. Ouais. En fait, là, on sort du champ du personnel et on arrive presque dans une sorte de culture numérique, de culture pop numérique. En fait, c'est une sorte d'objet comme finalement, c'est pas très fin, quoi, ce qu'elle produit, et c'est pas grave, en fait, quoi. C'est un peu comme c'est le Coca-Cola de l'écriture, en fait, quoi, ChatGPT quelque part, quoi, ou le fast-food de la littérature, quoi. Mais ça, je trouve ça intéressant, quoi. C'est va-et-vient comme ça, même entre quelque chose qui pourrait être une sorte de le sacré, l'icône, une sorte de culture, de spiritualité, quelque chose de très élevé, et en même temps de faire des liens avec des choses issues de la culture populaire, d'un savoir très terrestre, on va dire, quoi. Ça, c'est quelque chose que je fais souvent dans mon travail, quoi. Des sortes de va-et-vient. C'est comme je vais beaucoup, comme je disais, dans la jungle pour travailler avec des guérisseurs, voir comment ils manipulent les odeurs, dans quel but. Enfin, c'est des guérisseurs parfumeurs, c'est des curanderos perfumeros, qui sont spécialisés dans l'utilisation rituelle de parfums, quoi. Et je passe beaucoup de temps à observer quelles plantes ils utilisent, comment ils utilisent les odeurs, dans quel but. Donc, c'est très complexe, hein, parce qu'il n'y a pas deux personnes qui travaillent de la même manière. Mais ça, moi, je réutilise ça, j'essaie de réinvestir ça dans des problématiques occidentales, comme les jeunes drogués, par exemple. C'est des thèmes qui reviennent assez souvent, quoi, dans mon travail. Quoi.
Et le lieu, ça joue un rôle, par exemple, tu sais, parce que tu parles de sacré. Et à chaque fois, la dimension du sacré, elle est faite à partir ou dans un lieu, Et d'ailleurs, elle détermine, soit elle est déterminée elle-même par le lieu, soit elle détermine le lieu consacré d'une certaine manière. Donc il y a toujours, quand on parle du sacré, quelque chose qu'on a consacré, quelque chose qu'on a mis dans un lieu spécifique pour qu'il produise ce qu'il produit. Donc la question du lieu est extrêmement importante. Par rapport, par exemple, à juste, si je reviens à l'icône, l'icône que je vais mettre, l'icône que je vais mettre juste dans ma maison, par exemple. Elle acquiert quelque chose de par sa présence dans cette maison, mais il y a le côté plus sacré. Elle ne va jamais être considérée comme sacrée dans ma maison. Elle a un côté mystique peut-être, elle a d'autres dimensions, mais du moment où je la détermine comme sacrée, elle est dans un lieu spécifique. Et c'est ça qui interpelle aussi. Ça veut dire, est-ce que tu penses le lieu? Hein, en faisant par exemple ça, comment tu peux penser le sacré en même temps que le lieu dans lequel tu fais la création? Tu l'as fait ici en plus, l'as créé ici. Et qu'est-ce que ça fait du lieu? En quoi ça va affecter l'œuvre? Et en quoi est-ce que le lieu lui-même va être déterminé par ce que tu y places? Parce que le lieu de lui-même, si on parle comme ça, doit faire partie de l'œuvre dans ce cas-là.
Oui.
Je ne sais pas comment tu le penses, c'est ça que je...
Bah, là, c'était un projet effectivement qui est parti du lieu. En fait. C'est lors de la première visite que j'ai fait ici au mois de janvier. J'avais un peu cette idée déjà de faire peut-être de couper l'espace, de faire une proposition un peu radicale, mais qui soit pas créer un espace de projection supplémentaire de l'espace, mais qui soit plutôt de prendre en compte la totalité de l'espace et de jouer avec cet espace-là. En fait, quoi. Donc
En plus, tu fais pas dans la tridimensionnalité. C'est pour ça que j'ai pensé à l'icône. Hein, tu as ça là, et puis derrière, on peut penser qu'il y a ce vide, mais on est vraiment devant quelque chose. On est dans une double dimension, et qui en même temps s'échappe à elle-même, parce que vu le fait que tu as la cire et autres substances, je pense qui tombent et qui sont peut-être problématiques. Tu m'as dit quand il fait chaud, en plus. Mais c'est une bonne chose parce que ça veut dire le lieu affecte ce que tu crées. On est quand même, on garde cette... c'est comme si la double dimensionnalité s'échappe à elle-même. On échappe à elle-même.
Bah, en fait, il y a la troisième dimension, elle est pour moi, ce que j'ai essayé de convoquer, c'est une dimension invisible, en fait, une dimension qui est peut-être de l'ordre effectivement, du sacré, du spirituel, du... Donc pour ça j'ai choisi sciemment de faire une proposition très frontale où effectivement c'est très plat et les dimensions la troisième dimension se crée par le son, par l'odeur, par une porte, un échappatoire qui échappe à l'œil et qui échappe au mouvement du corps, quoi. C'est on est uniquement dans des sensations, dans quelque chose de très vaporeux, quoi, en fait.
Et on a envie de toucher en même temps. C'est très sensuel.
Ouais. Comme travail. Sachant qu'en plus tu parlais de la chaleur qui fait bouger les pièces, qui effectivement a fait a altéré c'est pas que ça a altéré, mais ça fait jouer la cire. Et c'est aussi pour ça que la cire m'intéresse, c'est que c'est une matière qui est vivante, en fait, quoi, qui réagit très rapidement. Au chaud, au froid, il y a beaucoup de mouvements qui se passent et le parfum en fait se dégage d'autant plus qu'il fait chaud. Mais plus il fait chaud, plus la pièce va se fragiliser, les parties vont tomber. Voilà, donc il y a une sorte d'ambiguïté comme ça entre la rigidité de l'œuvre, le caractère très fini, fixe, et en même temps le fait qu'elle soit un peu toujours en train de travailler et sur le point de s'effondrer, en fait. Il y a un truc aussi qui est...
Donc plus on est dans le don de l'amour, plus on se perd,
plus on est sur
que personne, on se perd en tant qu'identité, en matérialité, et plus on est dans le don pur, plus la matérialité elle s'en va,
elle
devient quelque chose de plus évanescent. Et tu es donc dans une sorte d'expression figée d'un processus qui est celui de ce passage vers le don pur, hein, en fait. Mm. Une question de don dans l'amour, d'amour au sens le plus large, bien sûr. Ça, je sais pas. C'est... Parce que tu as dans tes vidéos je aussi le cœur du Christ et tu as des trucs comme ça dans la vidéo.
Ouais, la vidéo, je peux en parler peut-être deux secondes. Ouais, c'est pareil, hein, c'est un peu le même principe que le texte. Enfin, dans le sens où j'ai travaillé avec une autre intelligence artificielle qui est plutôt de type GAN, qui fonctionne différemment. Ça s'appelle
GAN.
GAN, c'est une technologie, quoi. C'est comme,
ok, je connais.
De toute façon, les AI, oui. c'est des techniques, quoi. C'est comme des petits moteurs qui fonctionnent d'une certaine manière, quoi. Donc, mmh. ChatGPT utilise un certain moteur qui va lui faire générer du texte. Okay. Et il y a d'autres petits moteurs qui travaillent différemment et qui génèrent de l'image.
De l'image,
en pixels, okay. quoi. Et donc la vidéo a été faite avec un moteur GAN que j'ai nourri avec une recherche Google où j'ai simplement. Poser des questions sur le cœur, quoi. Donne-moi des images de cœur, cœur sacré, cœur anatomique, le symbole.
Ah oui, ok. Ouais.
Et je, systématiquement, je téléchargeais, je faisais avec mes assistants, on téléchargeait des milliers de réponses Google.
En
images. Ouais. Et donc, on a nourri cette machine avec une dizaine de milliers d'images différentes de types de cœur. Et donc le GAN, lui, a pour but de retrouver le chemin. En fait, l'idée, c'est qu'on lui donne un résultat. Et à force de lui donner des résultats similaires, par exemple, c'est une machine qui est très utilisée pour faire des portraits de gens qui n'existent pas. Très réaliste. On voit souvent, là, Emmanuel Macron en train de sortir les poubelles, ce genre de truc.
Ouais.
Ça, c'est un GAN qui a produit ça. Quoi. Mm. Et donc,
c'est un bel exemple.
Ouais. c'est l'actualité, peut-être. Et donc, en fait, mais pour que ça fonctionne bien, il faut lui donner des images très similaires.
Mm.
Donc là, moi, le fait que je lui ai donné des images de cœur anatomique, de cœur symbolique et de cœur iconique ou de différents types de cœur, en fait, la machine, elle ne comprend pas parce qu'elle a beaucoup de mal à faire une synthèse de tout ça. Ouais. Donc là, la vidéo, c'est une sorte de morphing où elle cherche à retrouver ma problématique initiale. Ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est presque c'est comme si la machine cherche l'amour pour moi, en fait. Quoi. Mmh. Quelle est l'origine de l'amour? Quel est le
oui, ouais.
Et voilà, c'est le grand mystère, en fait. Quoi, de cette,
alors, c'est rigolo. Moi, je tombe dans les pommes si je vois du sang. Donc, quand j'ai regardé... la vidéo avant ça, en plus, parce que c'est l'entrée. C'est un passage vers le dépassement de ce qui apparaît. Hein. Mais cette fois, le dépassement est vers l'absence de conscience, parce que tu peux, quand tu tombes dans des pommes, c'est que tu n'as plus conscience du tout. Donc ça m'a un peu. Mais ça va.
Ça va. Ouais. Tout le rythme bien. Était assez. J'ai choisi un rythme assez lent. Il y a eu un moment donné, c'était beaucoup plus intense.
Ah oui, ok.
Mais bon, les décisions. Parce que je travaille de manière assez intuitive. Mm-hmm. Donc là, la vidéo qui est là, je peux très bien la remontrer dans un autre lieu avec un rythme complètement différent.
Mais je pense que là, c'est plus en lien avec le lieu que la vidéo. Je pense c'est quand même.
Oui, la vidéo, c'est un travail de recherche que j'ai fait par rapport à la problématique de la sérigraphie. Que Vortex a. Donc, finalement, c'est aussi une demande un peu in situ, mais qui n'est pas liée à l'espace, mais plutôt aux conditions d'invitation. Quoi, parce que chaque artiste fait une sérigraphie. Okay. Donc, je me suis dit que pour générer l'image de la sérigraphie, je vais entraîner cette machine. Voilà. Et du coup, ça m'a donné cette vidéo que j'ai trouvée intéressante et finalement qui avait quelque part sa place comme une sorte de travail un peu introductif. Mais bon, le cœur, quand même,
c'est là.
C'est ici, quoi. C'est le cœur.
Mais il y a ce qui est intéressant aussi, je trouve, on a parlé de ça il y a 3 ans, en conf à Bergen, c'est cette question qui est un peu ancienne, qui est un peu surannée, mais il y a vraiment un retour à... Je parle souvent de retour, mais un retour à une certaine profondeur. Des choses. Ça veut dire pas ce qui apparaît seulement n'est pas que ce soit phénoménologiquement ou autre, c'est pas juste cela qui va mettre en branle la réflexion artistique, mais il y a une certaine recherche, même sémantiquement, sur ce que peut représenter un corps, ce que peut être plutôt une profondeur dans l'œuvre, dans ce qu'on crée, une dimension qui est autre que celle de l'apparaître en tant que tel. Et je pense que tu fais ça, donc je pense que tu es à l'intérieur, peut-être consciemment ou non, de ce questionnement-là, et je pense que c'est ça qui t'intéresse, je pense, aussi dans la mystique et dans la question du divin aussi, ça, on n'a pas abordé cette question, mais dans la mystique et dans la dimension du sacré. Je pense il y a ça, il y a cette recherche chez toi, derrière, comme on a dit, hein, derrière cette bidimensionnalité, il y a cette recherche constante à dépasser la bidimensionnalité par autre chose constamment. Donc, à créer une certaine profondeur, mais sans qu'elle soit purement une profondeur mathématique, hein, une profondeur par d'autres moyens, si on peut dire, esthétiquement, hein, dans la sensation, dans le premier sens du mot. Je pense qu'il y a beaucoup de ça, et je pense que c'est réussi avec cette œuvre. Après, j'ai vu autre chose aussi que tu as fait sur Internet, et je pense qu'on peut voir ça à chaque fois, qu'il y a ça. Je ne sais pas ce que tu... C'est pas être d'accord ou pas, c'est voir ce que tu peux penser de ça.
Bah c'est, pour moi, la problématique, elle est aussi liée à la question de la modernité. Et comment, moi, en tant que jeune ou artiste de 39 ans, issu d'une culture, on va dire, post-moderne, qui a grandi dans les années 90-2000. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui avec la situation écologique, politique, liée à, finalement, aux pays occidentaux, quoi, qui est largement basé sur le capitalisme, le matérialisme, le structurel, enfin, tous les trucs un peu en isme ces dernières 20-30 ans ou 40 ans. Et mon intuition, c'est que pour dépasser ça, il faut aller chercher des nouvelles matérialités, ou des matérialités peut-être pas forcément nouvelles d'ailleurs, mais parce que c'est plutôt même
moins connu, moins investi.
De trouver des portes de sortie, ou des appels d'air, en fait, au-delà de la matière, quelque part, ou au-delà de au-delà d'une vision purement rationnelle, productiviste, et c'est ça qui m'anime, en fait, quoi. C'est pour ça que je m'intéresse.
Oui, pourquoi le choix de l'Amérique du Sud, par exemple, pourquoi c'était un hasard, ou...
C'est un hasard. Ouais. Oui et non. Enfin, disons que moi, si je m'intéresse à des profils de jeunes toxicomanes, c'est que moi, quand j'étais adolescent, j'étais moi-même polytoxicomane, et donc je consommais beaucoup de produits, mais surtout beaucoup de plantes. C'est plutôt des plantes hallucinogènes, du LSD, des champignons, la marijuana, tout ça. En fait, par hasard, à un moment donné, j'ai découvert des gens qui travaillaient aussi avec des plantes, mais dans le but de soigner, en fait, quoi, dans le but de pouvoir se défaire d'addiction, de dépression, de troubles. Voilà. Et ce savoir-là, en fait, les gens que j'ai rencontrés, ils se sont formés en Amazonie, quoi. Donc, je suis allé voir, en fait, les personnes qui ont formé les gens que j'ai rencontrés, et je vais toujours un peu plus loin dans cette espèce de recherche.
Et tu vas à nouveau, tu vas...
J'y vais tous les ans, peut-être quand je peux, quoi. Mais là, en ce moment, ma thèse...
Et tu leur en parles, de ce que tu fais?
Ouais.
Est-ce qu'il y a un échange?
Oui, en fait, je travaille avec un centre de réhabilitation pour toxicomanes en Haute-Amazonie.
Et tu vois, j'ai pas lu sur toi.
Ah ouais? On peut pas forcément tout... Il y a beaucoup de choses, en fait.
Tu n'as peut-être pas le droit de...
Si, j'ai tout à fait le droit, d'ailleurs. C'est bien. c'est bien qu'on en parle parce qu'en fait ma thèse est basée sur finalement la collaboration que j'ai avec ce centre là, ce qui me permet en fait de passer du temps avec à la fois des guérisseurs mais aussi des thérapeutes, des biologistes, des neurobiologistes, des ethnobotanistes, des ethnologues, des personnes qui fréquentent ce lieu. Ça, c'est une sorte de lieu de recherche.
Et tu penses à exposer là-bas aussi
Non, moi je vais là-bas pour apprendre. Moi, pour moi, c'est une école. Voilà. Et puis maintenant, en fait, depuis le temps, je rencontre aussi d'autres guérisseurs qui sont dans des endroits plus reculés, de différentes ethnies, en fait, plutôt en basse Amazonie. Je travaille moi-même avec les plantes, je fais des diètes, des purges, et j'enregistre en fait mon activité cérébrale pendant ces expériences-là. Donc c'est plutôt une sorte de...
Tu en fais quelque chose
J'en fais ma thèse, j'essaie d'en faire ma thèse. En fait.
Ok.
J'essaie que...
Fais pas de la neuroscience. Hein.
Mais en tout cas, la neuroscience, les neurosciences m'intéressent.
Oui,
je ne sais pas ce que ça... Ouais. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas que je fasse des neurosciences?
Non, je ne dirais rien. Je suis un dinosaure de l'ancienne esthétique et d'une philosophie qui est en dehors des neurosciences. Non, c'est le côté anglo-saxon, je rigole.
Ah ouais?
Tu fais ce que tu veux.
Ouais. Et alors, qu'est-ce que ça évoque pour toi, ce truc de neurosciences? Ça fait référence. C'est quoi?
La réduction des choses à leur scientificité. Ce qui est le cas, parce qu'ils veulent vraiment faire ça. Au descriptif aussi. Ouais. C'est que tout peut être réduit à ce qu'on peut décrire. C'est comme si on était aussi dans le positivisme logique. C'est un peu ça, tu décris en fait. Il faut que ce que soit dit soit une description exacte de ce qui se passe devant toi ou dans le monde. C'est l'héritage de ça. Mais c'est tout, après, c'est bien. Mais ça peut, on ne peut pas s'arrêter là. Quoi. C'est très tentant de s'arrêter là parce qu'on a quelque chose de l'ordre de la sensation, de l'ordre du résultat concret. Donc on est tenté de dire « Ah, donc c'est vrai. » Oui, c'est vrai, mais c'est vrai aussi que je te touche. C'est vrai. Mais il faut aller beaucoup plus loin.
C'est ça qui est assez rigolo dans toutes les expérimentations que je fais. Finalement, ce que j'enregistre, c'est uniquement des valeurs, c'est des sortes de graphies comme ça, de spectres qui montent, qui descendent.
Qui n'est pas toi.
Qui n'est pas moi, mais qui est une projection. C'est une sorte d'instantané. C'est comme, c'est comme prendre une photo. C'est pas le moment, mais c'est une sorte d'instantané d'un moment qui a été pris selon la lumière, selon la technique. Moi, c'est un peu comme si j'avais un appareil photo qui prenait des photos de mon activité cérébrale pendant les rites. Ça fait pas figure ça fait pas autorité sur l'expérience que je vis, qui est beaucoup plus profonde. Parce que c'est un niveau onirique extrêmement puissant, c'est des rêves et puis ça dure, c'est pas que le moment de...
Tu travailles sur l'onirique?
Je travaille beaucoup avec mes rêves et avec la mémoire de mes rêves en fait. Là par exemple cette installation là je l'ai rêvé plusieurs fois.
Je savais.
C'est d'ailleurs pendant les cérémonies en fait j'y ai pensé d'abord quand en visitant le lieu, je me suis dit tiens ça pourrait être pas mal, mais je pensais pas au cœur, j'imaginais plutôt des pièces en cire, je savais pas trop quoi. Et plusieurs fois pendant les séances de travail en Amazonie, j'ai eu ces images de cœur comme ça qui sont revenues très souvent. Et donc je fais souvent ça, même dans mes films, c'est souvent des... j'essaye de... Je travaille à partir de ma mémoire, en fait, quoi. Moi, j'écris très peu, je suis quelqu'un d'assez feignant, je suis pas du tout une sorte de... J'essaye pas de me rappeler absolument des choses. J'aime bien oublier, laisser les choses aller, venir. Et à un moment donné, hop, il y a des choses qui sont suffisamment solides pour être facilement contextualisables. Je me dis, ok, ça c'est là. Ou en tout cas, je pense que c'était comme ça. Mais il y a un truc suffisamment fort. Et c'est pareil quand je fais des sculptures, mais qui sont plus des objets. Je m'arrête au moment où je me dis, tiens, ça me rappelle quelque chose que j'ai... Ça me rappelle un de mes souvenirs, quoi.
Et tu veux le garder à ce moment-là.
Et je me dis, c'est bon. Pareil, là, je suis en train de
travailler de mémoire.
C'est beaucoup lié à ma mémoire. Hein. Ouais. Ouais. Parce que c'est le, en fait, finalement, c'est le seul garant de mon identité, de qui je suis.
Si tu la perds.
Il y a beaucoup de ça, en fait. Il y a beaucoup de pertes. Ouais. Mais c'est intéressant aussi.
C'est ce qui se protège. Ouais. Il faut perdre. Ouais. Et là, c'est des. Alors, comment tu fais là? C'est là que tu as tout fait, ça, tout ça. Fait,
tout a été fait sur place.
Ça, ouais. Ça te prend combien de temps? C'est des choses de l'ordre très matériel, basique. Un mois quand même. Ouais. Pour, donc c'est la résidence pour créer ça.
Ouais. Enfin, j'ai eu la chance de pouvoir effectivement travailler ici. On était avec toute une équipe. Ouais. Il y avait Théo, il y avait Johan, les stagiaires. Ouais. Était une équipe, on était au moins
5. Et en travaillant, t'as des choses qui changent,
je m'adapte. C'est assez expérimental. Hein. Ouais. D'ailleurs, je profite de ce type d'invitation dans des espaces qui sont plutôt des project space pour tenter des trucs.
Tu l'avais imaginé comme ça?
Je l'avais imaginé comme ça. Oui, non, c'est assez fidèle en fait à ce que j'imaginais. Ouais. Oui, c'était grosso modo comme ça que j'imaginais le truc. Mais voilà, il y a plein de réglages. Si je devais le refaire, je pense que je ne m'y reprendrais pas de la même manière. Parce que là, on a fait des pièces de cire après avoir monté la grille ou à côté. Et on a installé on les a piquées comme ça, un peu comme des. Mais bon, c'est pas très stable en fait, c'est un peu dangereux. Ouais, quand il y a des écarts de température, ça joue, puis à un moment donné.
En fait, et tu aimerais recréer ça ailleurs
ou... Ouais, je vais en faire d'autres, parce que c'est maintenant que j'ai chopé un motif qui me paraît intéressant. Puis le motif du cœur, il fonctionne vachement bien, quoi. C'est un truc qui est...
Oui, parce qu'on peut tomber vite dans les clichés avec le cœur.
Ouais,
pense au cœur, quoi, quand il y a amour, quand il y a.
Ouais, c'est ça. Ouais. Mais j'aime bien ça.
Ça veut dire qu'il y a un vrai défi de faire quelque chose qui ne soit pas en utilisant ce.
Ouais.
C'est peut-être cliché. Hein, non, mais là, ça marche autrement.
Ah, c'est vraiment un symbole. Finalement, c'est vraiment un des symboles les plus pop qu'on puisse trouver, quoi. C'est le cœur, quoi. Le petit. Je ne sais pas comment on fait. Quoi,
c'est rigolo. On voit le truc du Christ, là, dans les. Ce qui apparaît avec les.
Ouais, ouais.
C'est, je dis, oh, c'est quoi?
Ouais, symbolique.
C'est ma femme qui l'a vu en premier.
Symbolique, hein, judéo-chrétienne, mais en même temps très émo d'adolescent, quoi, qui s'envoie des petits cœurs. Ouais. Puis c'est un truc qui dépasse complètement.
J'en vois, moi, des petits cœurs.
Bah, on envoie tous des petits cœurs. On a besoin d'en recevoir aussi, des petits cœurs.
Les Libanais, par rapport aux Français, par WhatsApp, on voit 90% de plus de petits cœurs.
Ah, c'est intéressant, ça.
Ils aiment ça. Ouais. Tu te dis, ils sont tous amoureux de moi au début. En fait, ça m'est arrivé quand j'étais au début au Liban. Mais pourquoi tout le monde m'envoie des cœurs? Je ne comprends pas.
C'est juste des cœurs en fait, avec un texte ou quoi? C'est
pour parfois, ponctuer, du texte. Et en fait, on n'envoie pas de texte au Liban. On envoie la voix. C'est des messages vocaux. Les gens n'aiment pas écrire. Ils aiment envoyer des messages vocaux.
Okay.
Et d'ailleurs, là, quand je suis revenu, à chaque fois, moi, j'envoie des messages vocaux. Et je ne comprends pas, tout le monde me répond avec du texte. Mais pourquoi vous me répondez avec du texte? Et en fait, je ne sais pas, c'est peut-être la sensualité de la voix. On a besoin d'entendre la personne, que ça soit plus personnel. Quand tu as du texte, ça ne l'est pas.
Ouais.
Les mots ne résonnent pas. Je pense que c'est le côté... c'est notre côté méditerranéen,
libanais, tout le temps. Les Espagnols aussi font beaucoup ça.
Ouais.
En Espagne, et au Pérou, tu vois. Au Pérou, pareil.
Ouais.
C'est beaucoup de.
C'est les gens passionnés, ils aiment la voix.
Ouais.
C'est vrai. Il faut la voix. Et au début, oui, c'était rigolo, les cœurs. Mais pourquoi tous ces cœurs? Je comprends.
Mais alors, du coup, ils ponctuent avec des cœurs, quoi.
Ah oui, ils mettent plein de cœurs. De toute façon, il faut des cœurs. Parfois, tu n'as que des cœurs dans les réponses.
C'est pas des « je t'aime », quoi. C'est «
encore 20 cœurs ». Je t'aime, je t'aime ». Non, je t'aime. Mais tout le monde s'aime. C'est bien, tu es entouré d'amour. Il y a les guerres autour, mais il y a au moins de l'amour.
À moi, entre les gens.
Parce que la situation au Liban, là, elle n'est pas géniale. C'est pour ça que je suis ici. Mais oui, il y a ça. Et ce qui est bien sur toi, c'est que tu recherches aussi une sensualité, donc c'est bien. Ça me parle de faire quelque chose comme ça par rapport au cœur.
Bah, la question de l'odeur aussi, pour moi, est très liée au cœur.
C'est génial.
C'est vraiment quelque chose qui touche. C'est toujours les odeurs. j'aime pas qui est tout de suite là, quoi.
C'est... T'as envie de croquer le truc.
c'est l'odeur, pour ceux que l'odeur attire, ouais. Parce qu'il y a des gens aussi, j'imagine, je sais pas quelle réaction vous avez eue, mais est-ce qu'il y a des gens qui...
C'est vrai, personne n'a parlé, hein. Ils sont... On a trop parlé, peut-être.
Est-ce qu'il y a eu des réactions violentes par rapport aux odeurs
Par rapport aux odeurs, enfin, après, moi, je suis pas là tout le temps. Mais...
Il y a du déodorant, sinon.
Non, mais les réactions ont été beaucoup plus. Par rapport à la cire qui brûle et par rapport au son, parce que du coup, là, certaines n'ont pas entendu ce son, mais c'est ce battement de cœur comme ça. Qui te prend est assez perturbant. Donc, voilà, on pourra découvrir après, mais les réactions étaient violentes par rapport à ça. Alors, nous, on a été baignés en fait dans cette odeur pendant un mois avant l'œuvre visible.
Et vous continuez à la sentir, même après.
Oui. Mais c'est marrant parce qu'elle est très empruntée, même quand tu rentres chez toi, elle te poursuit encore.
Ah oui?
C'est de l'ail en fait.
Il ne faut pas vous frotter aux pièces. Hein. Il ne faut pas vous frotter.
Puis les battements, c'est très intéressant. C'est comme le yoga, tout le monde veut. C'est pas un penser à autre chose. Les battements, c'est important aussi dans ton travail. On te dit, quand j'ai fait cette expérience, tu vas être bien. Tu écoutes seulement ton souffle, les battements de ton cœur, c'est tout. Tu vas voir. Et moi, c'est l'angoisse totale. Je tombe dans les pommes. Mmh. Tu me dis d'écouter mon souffle, ma respiration. C'était une horreur. C'est pas possible. Ouais. Donc, ce qui calme certains rend d'autres un peu fous. Ouais. Moi, j'ai très peur des battements. J'ai très peur parce que je m'écoute mourir. Je dis là, il va faire ça. Ah bah c'est foutu, je vais mourir. Donc, ça va beaucoup plus vite. T'es dans l'angoisse, c'est foutu.
Et ça, c'est hyper intéressant, je trouve, parce que si on dit que pour s'aimer, on faut écouter son cœur, mais quand on écoute réellement son cœur, ça nous fait peur parce qu'on pense à la mort.
Ouais.
Enfin, en tout cas, toi, la résultat, tu n'entends pas l'amour quand tu écoutes ton cœur.
C'est le fameux Moyen-Âge, la fine amour, c'est aussi la mort.
Ah oui.
Parce qu'il n'y avait pas le U. La mort, c'est la mort.
Et ça, je trouve ça assez intéressant aussi. C'est encore une fois, quand on est dans le rapport aux choses, ou est-ce qu'on est dans un rapport physiologique, anatomique, symbolique, et selon la perspective du même objet, quoi.
Et au temps. Notre rapport au temps.
Ouais.
Comment il est scandé. Comment il est scandé. C'est très curieux.
Parce qu'effectivement, il y a eu je sais plus, pendant le vernissage, il y a quelqu'un qui avait eu une opération du cœur, mais il avait un pacemaker.
Ouais, c'est sur la mémoire aussi.
Ouais.
J'avais pas pensé à ça, quoi, mais effectivement, un cœur brisé, pour moi, ça a plutôt tendance à. Ça parle plutôt de quelqu'un qui est en déception, en rupture amoureuse. Ou, mais il y a les personnes. Mon père, d'ailleurs, qui est décédé d'une crise cardiaque. Et les gens qui ont subi ça, qui ont survécu, j'imagine que ça doit être. C'est encore une autre approche, quoi, de la question, quoi, plus à...
Voilà, c'est la pluridimensionnalité de cette notion de battement est curieuse.
Ouais, j'ai hésité au début à les mettre. En fait, c'est mes assistants qui ont travaillé sur le son. Mmh. Je leur ai donné carte blanche. Ils sont étudiants en quatrième année aux Beaux-Arts de Montpellier. Donc je les ai laissés s'amuser, parce que moi j'aime bien aussi déléguer certaines choses, en leur donnant un cadre, en leur disant là vous partez de la bande son de la chanson de Lil Peep, sans les paroles, et vous amusez avec le son, vous pouvez ajouter des choses si vous voulez, mais vous en faites vous contorsionnez, vous en faites quelque chose, vous le sortez de son statut de mélodie. Et vous le ramenez dans quelque chose de plutôt vibratoire. Et donc, ils ont fait 7 versions. Et donc, il y en a une où ils ont jeté ces battements de cœur. Effectivement, c'est très, très puissant, quoi, comme ajout. Quoi. Ça...
Et c'est présent partout. Quand tu as le son, même quand tu as juste le son, tu penses aux battements.
Oui.
Qu'ils vont entendre, je pense, après. Tu tu nous arrêtes.
Hein. Ouais, je sais pas.
Je sais pas si quelqu'un va intervenir, poser des questions.
Je sais pas s'il y a une trace de, du moment où vous êtes avec le chameau, comment ça se passe, ou vous êtes dans une ambiance particulière.
Je suis nu.
Ah, c'est un sens d'avoir la curiosité de vouloir faire les choses.
Ouais, mais il faut suivre l'Instagram de Vortex.
Il y a.
Il y a des stories, ouais, qui, hein. Il y a eu des vidéos sur la. C'est vrai que c'est impressionnant. Enfin,
ça veut dire qu'il faut qu'on se mette sur Instagram.
Ah ouais, ouais, c'est vrai. Ou sur le. Non, sur les banans Instagram.
Sur le site, je sais pas, non.
C'est vrai que vous faites pas de. C'est... Ouais, il ouais, faut être sur Insta. Bah c'est un, ouais, en plus, c'est un moment où du coup, c'est, les odeurs sont très fortes, quoi, parce qu'il y a tout qui. Donc c'est, ouais, c'est un moment assez intense, quoi.
Pour le coup, il y a eu un vrai rituel, en fait, autour de. C'est ouais. Drôle, en fait, cette barrière comme ça, qui s'est levée tout d'un coup, qui s'est.
C'est l'iconostase. De...
Ouais. C'est quoi l'iconostase?
C'est dans les églises orthodoxes, t'as, c'est le truc qui est debout sur lequel il y a toutes les icônes, et le prêtre va derrière pour l'Eucharistie.
Ouais. Et donc, c'est un espace sacré, c'est ça?
Ouais,
c'est voilà. Espace sacré. Mais moi, c'est exactement ça que j'ai,
pas accès, quoi.
Que j'ai mis en place là. Quoi.
Que tu n'as pas dans l'église catholique, par exemple.
Elle y est quand même, mais elle est symbolique.
Ouais, mais il n'y a pas l'iconostase.
Voilà.
Qui est, ce qui est de plus beau dans l'église orthodoxe, c'est l'iconostase.
Mais il y a même le côté hôtel, accessible avec
les ouais. Et puis derrière, il y a moi, il y a Dieu.
Ça pose la question aussi, est-ce que c'est un dépassement de soi ou c'est un voyage vers la transcendance? C'est un, j'ai commencé à en parler tout à l'heure, mais c'est.
Tout à fait.
Je pense à Rothko, enfin, travaux, parce que là, il y a un peu les deux. C'est intéressant parce que c'est un travail sur la marche qui n'est pas décidé. Donc, parce qu'il y a la prégnance de l'odeur, il y a le son, puis il y a la barrière, puis il n'y a pas de décision. Donc, ça laisse un.
Bah, c'est, oui, il y a une partie du travail que je laisse aux visiteurs, en fait. C'est qu'est-ce qu'ils en font. Moi, c'est comme si je mettais des balises, en fait, qui situent un peu, qui donnent une direction à l'espace. On parlait tout à l'heure de comment j'ai intégré l'espace. Donc, en fait, je vais donner une direction. En fait, j'ai transformé le truc en une sorte de chapelle, quoi, quelque part. Quoi. Et la question, c'est de savoir qu'est-ce. Quel rapport ça va générer, quel rapport intime ça va générer avec les visiteurs, quoi. Il y avait ce truc un peu de, on pouvait s'asseoir, parce qu'on s'est dit quand même que c'était que ça pouvait être intéressant, qu'on puisse passer du temps pour certaines personnes qui le souhaitent, quoi. Alors que bon, c'est une sculpture, quoi, il y a pas de c'est pas une vidéo, il y a pas. Mais il y a quand même une
contemplatif.
Il y a un truc très
invite à la contemplation.
Ouais. Et du coup, qui fait travailler un peu chacun selon son histoire, pour ceux que ça touche. Hein, ça c'est hors de ma portée, je pense.
On peut
même le mettre maintenant, on peut faire un truc.
On peut vous aider
à tous ensemble. Ouais.
Moi, j'irai derrière l'iconostase faire la prière. Je parle à Dieu.
Non, c'est interdit, personne n'a le droit d'y aller. Même les. Même moi, je peux pas y aller s'il y a un problème.
Ah oui, c'est vrai.
Bah ouais, c'est vrai que je crois qu'on a fait un petit peu le tour, hein, quand même. Mais à un moment donné, on a pensé mettre des gélatines pour avoir une ambiance rose ou rouge, où il y a eu plusieurs options qui ont été, puis finalement j'ai décidé de maintenir.
Peut-être le toit, il est bien comme ça. Ça donne quelque chose.
Tu veux dire de
glisser comme ça des.
Ouais. Non, en fait, ça aurait été simplement sur les fenêtres et sur les.
Ah oui.
Mais ça, en fait, ça aurait. Bon, ça aurait été pas intéressant aussi. Hein, mais disons que ça créait encore plus de dramaturgie. Finalement.
Moi, j'aurais aimé. Je pense.
Toi, t'aurais aimé.
Ouais.
Ouais.
Je pense que j'aurais aimé ça. Voilà, moi, tu mets ça pendant... Je ne suis plus là. Hein. Je ne vais pas bien après.
Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de ne pas mettre les filtres.
Oui, parce que ça
fait pour permettre aussi à une distance pour ceux qui ne souhaitent pas non plus se faire complètement
trop
avaler,
happé par ça.
Faire une version aussi où il y a des ralentissements, des embâtements. Mais je me demande d'ailleurs si ça ralentit pas à certains moments. Parce que des fois j'ai l'impression que ça ralentit. Mais peut-être pas. C'est peut-être une. Ouais.
Je suis pas encore tombé, donc ça va, je pense.
Le battement de cœur, c'est un ajout. Mais là, ce qu'on entend, là, tout le reste, là, ça, c'est des transformations de la chanson. Ouais. Tout ce qui est vibratoire. Ouais. En fait, je l'aurais donné comme source d'inspiration des enregistrements que j'ai fait dans la forêt amazonienne, de toutes les bruits d'insectes, de grillons, enfin, quand on est dans la forêt, là, à partir de... Un peu toute la journée, mais la journée, c'est plutôt des chants d'oiseaux. Et à partir de 5-6 heures du soir, c'est plutôt des insectes, les grillons. Il y a plein de types de grillons différents, de sauterelles, de machin. Et il y a des sons extrêmement aigus, il y a tout un tas de trucs très, très, comme ça, très vibratoires qui... Et j'avais envie de réinvestir ça quoi, en fait, quoi, ce truc quoi. Ouais. Ouais, il y a beaucoup de et en fait dans les rituels de soins il y a les chants des guérisseurs, mais l'ambiance aussi générale de la forêt, elle est extrêmement importante en fait je sais pas ça, je pourrais pas expliquer vraiment ce qui se passe quoi, mais ça fait partie de ce qui va aider en fait à dénouer, à réhabiliter quoi. Donc c'est vrai que visuellement, il y en est, je pense, sur quelque chose qui est à la limite de la mort quoi. Mais tout est mis en place pour être dans une sorte de cette question. Pour moi, qui est pour moi plutôt une question de la reconstruction, quoi, de comment on se Voilà. Mais qu'est-ce qui fait que les choses vont petit à petit se remettre en place, quoi.
Il y a un caractère évolutif, mais moi je ne pense pas que ça va forcément vers l'amour. Il est incertain. Mmh. C'est justement ça qui est intéressant. Mmh. Il y a cet aspect. On ne sait pas vers où ça va. Ça va quelque part, forcément, ça dégouline, voilà. Une transparence. Il y a des parties opaques, il y a des trous. Voilà. Mais en même temps, ce n'est pas déterminé. Mmh. Je pense que c'est vachement intéressant.
Merci. Ouais, bah, je pense que c'est aussi lié à notre. En tout cas, moi, c'est une sensation aussi que j'ai par rapport à. Encore une fois, je reviens à ma condition d'homme blanc occidental. On est dans une sorte de trou, quoi. Toute notre civilisation, elle fonctionne uniquement sur l'extraction minière, un truc qui ne fonctionne pas. L'appropriation du vivant. L'appropriation du vivant et. Ouais, comment, où est-ce qu'on va, comment on fait, voilà, alors est-ce qu'on plonge ou est-ce qu'on arrive à se maintenir, à se redévelopper, je sais pas, mais en tout cas on doit se poser la question, je pense. Et effectivement c'est ouvert, quoi. Ouais.
C'est une perspective.
Bien, on remercie.
Merci Franck, merci à toi. Merci.